Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Alors, il fait partie des choses que l'on ne voit plus, que l'on néglige, que l'on ignore, car on a du mal à imaginer la vie et la ville sans cette pièce essentielle. On le foule, on le piétine, on le salit. On le néglige, on le célèbre, on le casse, on le fait, on le refait. Mais une chose est sûre, bien qu'étant à la marge de nos rues, rien ne serait possible sans lui. Tantôt arboré, tantôt pavé ou goudronné, il fait partie de nos paysages et de notre culture en tant qu'homo urbanus, nous autres habitants des villes. On en change lorsqu'on aperçoit une personne à éviter, on le fait, au dire des femmes et des hommes de petite vertu, on en rit lorsqu'un humour vachard se greffe sur cette partie de ville, à l'instar de ce mot misogyne de Sacha Guitry, certaines actrices tiennent le haut du pavé, elles n'ont qu'à descendre du trottoir, on en parle lorsqu'on fait référence au rang social, comme en témoigne l'expression « tenir le haut du pavé ». Allez, j'arrête là ces évocations pour en venir à notre thème du jour, le trottoir. Et puisque tout commence par une définition, retenons celle de l'Académie française, « espace surélevé, ménagé sur le côté d'une chaussée, d'un quai, d'une rue, pour le passage des piétons ». Voilà, c'est sobre, c'est simple, c'est direct. En présence d'une spécialiste de la ville, nous allons donc parler aujourd'hui de cet espace à la marge. Mais comme le disait le cinéaste Jean-Luc Godard, il ne faut pas négliger les marges, car ce sont elles qui font tenir les pages. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, l'invité.
Bonjour Isabelle Barraud-Serfati et bienvenue au micro de Complètement à l'Ouest.
Bonjour Philippe.
Je vous accueille avec grand plaisir au micro de cette émission. Je disais, vous êtes une spécialiste reconnue de la chose urbaine. Vous êtes, pour être plus précis, vous dirigez IBCity, c'est une structure de conseil en économie urbaine. Et précédemment à cette activité, vous avez travaillé pendant 15 ans dans différentes structures immobilières publiques et privées. En parallèle, vous enseignez à Sciences Po au sein de l'école urbaine. Et je dirais, pour terminer, que vous êtes membre du comité d'orientation de la Fabrique de la Cité, qui est un think tank des transitions urbaines fondé en 2010 à l'initiative du groupe Vinci. Et puis, je n'allais évidemment pas oublier, vous êtes l'auteur du livre « Trottoir, une approche économique, historique et flâneuse » paru aux éditions Apogée. Alors, tel un ingrédient essentiel dans un fond de sauce, la coutume de cette émission, c'est de commencer toujours par un court extrait sonore, histoire de se mettre en appétit. Et là, bien sûr, nous allons parler trottoir.
L'exposition était desservie par un moyen de transport de conception révolutionnaire, le trottoir roulant, auquel on accédait par des rampes en pente douce. Le guide officiel le décrit ainsi. Il consiste en deux planchers mobiles parallèles, dont l'un, le plus large, roule à une vitesse de 8 km et demi, et l'autre de 4 km et demi. On passe à volonté et sans aucun danger de l'un à l'autre. Sur la gauche, une jeune femme inexpérimentée va tenter de passer d'une plateforme à l'autre sans perdre sa dignité.
Alors, donc, en effet, on parle de cette innovation, de ce trottoir, avec notamment ce trottoir roulant qui fut proposé aux visiteurs de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Juste une question, dans votre livre, vous faites un grand retour en arrière sur l'histoire du trottoir, on va en parler. Est-ce que vous aviez connaissance de ce trottoir roulant ?
Oui, alors effectivement, j'étais tombée sur... J'ai fait beaucoup de recherches sur le trottoir et donc j'étais tombée dessus. C'est vrai que je n'en parle pas du tout dans mon livre parce qu'il me semblait d'une nature un petit peu différente, puisqu'il n'est pas là pour, je dirais, longer les rues. Mais par exemple, et utiliser le terme de plateforme, et au fond, c'est aussi ça, ce qu'est le trottoir, c'est une plateforme. Et on en reparlera d'ailleurs, je pense, tout à l'heure.
Alors, on va parler beaucoup d'histoire, on va commencer justement par l'histoire du trottoir. Alors, vous dites que c'est un élément typique des villes qui remonterait à moins 2000 ans avant Jésus-Christ, quelque part en Turquie. Nous avons ensuite, si je vais très rapidement, nous avons, dites-vous, des preuves qu'il y en avait à Pompéi, dans la Grèce antique, au temps des Romains, en Égypte. Même en Égypte, vous dites que ces trottoirs ressemblaient à des banquettes. Dans le Paris même du XIIe siècle, Philippe Auguste prend la décision de faire paver les grandes artères de la capitale. Et si je vais encore plus vite dans le temps, vous évoquez Londres, et notamment après le grand incendie de 1666, une loi qui s'en suivit, la Westminster Paving Act de 1672, pour que les rues aient des trottoirs. Je n'oublie pas évidemment le Paris du baron Haussmann, avec des trottoirs qui coïncident avec les grands équipements urbains, dont les équipements d'assainissement. Bref, et j'en viens à ma question, d'où vient dans l'histoire cette idée du trottoir et quelles en ont été finalement les formes successives?
Oui, alors effectivement, les trottoirs de Pompéi que vous évoquez, ils sont peut-être les plus intéressants, d'abord parce que tout simplement, on peut encore s'y promener plus de 2000 ans après. Et au fond, les trottoirs de Pompéi, ils permettent de redire à quoi ils servaient. Ils servaient déjà à des fonctions hydrauliques. Il s'agissait en fait déjà de se protéger des pluies diluviennes qui pouvaient survenir à l'issue d'orages importants. Il s'agissait aussi d'amener sous les trottoirs qui étaient assez élevés, c'était des trottoirs qui faisaient environ 30 cm d'eau, d'amener des canalisations qui allaient permettre d'amener l'eau aux fontaines ordinaires, les locus, et puis amener aussi l'eau à l'intérieur de certaines maisons. Donc on avait déjà cette fonction d'accueil des réseaux qui va être très présente au 19e siècle. Et puis ça servait aussi déjà à protéger les piétons de la circulation avec des chars. Alors c'était pas tout à fait des voitures, c'était des chars qui transportaient parfois des vestales. Mmh. On avait aussi déjà du stationnement, puisqu'on voit notamment dans une très jolie aquarelle de Jean-Claude Golvin sur la rue de l'Abondance à Paris, on voit la rue de l'Abondance à Pompéi, on voit des petits anneaux en fait, qui permettaient d'accrocher par exemple un âne ou un mulet. Mmh. Et puis on avait aussi déjà des commerces. Donc finalement, dans les trottoirs de Pompéi, on a le ferment de ce que va être le trottoir jusqu'à présent. Et il y a notamment des travaux de Catherine Saliou qui représente une carte des trottoirs de Pompéi. Et 2000 ans après, en fait, la question qui est posée, c'est est-ce que les trottoirs sont homogènes d'une façade à l'autre? S'ils sont homogènes, c'est-à-dire un peu même matériau, même taille, ça veut dire qu'il y avait une intention collective. Mmh. Et en fait, cette question, elle était là à Pompéi, elle est encore aujourd'hui, c'est cette question du rapport entre le collectif et l'individuel, le riverain et la collectivité dans la conception et la réalisation des trottoirs.
On va bien sûr en parler, puisque tout ça, en effet, très des notions d'urbanisme. Mais juste encore un mot sur cette histoire. Donc, 1672 à Londres, le Westminster...
1762.
1762, pardon, je vais inverser. À Londres, ce Westminster Paving Act, bien sûr, ensuite à Paris. Donc, très tôt, il y a donc plusieurs siècles, l'idée, en effet, que les villes, désormais, doivent avoir des trottoirs pour vraiment structurer l'urbanisme, c'est ça?
Oui, si effectivement, donc vous l'avez dit, 1666, c'est le grand incendie de Londres, puis Londres se développe. À ce moment-là, pour faciliter la mobilité des personnes dans Londres, sont créés des trottoirs, 1762. Mmh. Et les trottoirs en France, ils vont arriver plus d'un siècle plus tard. 1781, rue de l'Odéon à Paris, c'est les premiers trottoirs, mais ils vont surtout généraliser au milieu du 19e siècle. Et la raison, c'est quoi? C'est tout simplement que Londres connaît un développement urbain plus important, plus rapide, plus tôt que Paris. En fait. Et finalement, c'est ça qui va expliquer aussi le fait que les trottoirs à Paris arrivent plus tard. Et ils vont arriver pour une autre raison que je n'ai pas évoquée pour le coup dans le cas de Pompéi, qui est la question de la salubrité.
Bien sûr.
Les rues étaient extrêmement sales.
Ouais, ça ressemble à quoi les rues de Paris avant les trottoirs?
Alors pour ça, il faut lire en fait les tableaux, par exemple, de Louis-Sébastien Mercier. En fait, on a la fange, on a des dames en fait, qui doivent traverser sur des espèces de planches en bois pour ne pas salir leurs souliers. Et donc, voilà, les rues étaient extrêmement sales. Il fallait se protéger des éclaboussures, des... Et là, une des fonctions, justement, ça va être de pouvoir rendre les rues plus saines. Et là, on va se situer en 1832. Donc, on est avant Haussmann, on a déjà les trottoirs, mais ils ne sont pas encore généralisés. On va avoir une grande épidémie de choléra. Et tout ça va expliquer, finalement, ce qu'on va avoir au milieu du 19e siècle, qui est la création des grands réseaux, des grands réseaux d'eau potable, des réseaux d'égouts, des réseaux de gaz. Et précisément, la création de ces grands réseaux, elle va coïncider avec la généralisation du trottoir, parce que c'est aussi sous le trottoir que vont passer ces réseaux.
Alors, dans l'histoire de l'urbanisme, il y a là aussi la fameuse charte d'Athènes en 1942, avec la figure emblématique, bien sûr, du Corbusier. L'idée, rappelons-le, c'est d'assigner à la ville moderne quatre grandes fonctions. C'est habiter, travailler, se divertir et circuler. Racontez-nous alors comment le trottoir, vous le dites dans votre livre, a failli quelque part passer à la trappe au vu de ces théories urbanistes, un brin radical. Comment est-ce que le trottoir a pu éventuellement ne plus faire partie de l'équation?
Oui, alors effectivement, vous l'avez dit, donc le Corbusier, la charte d'Athènes, c'est la séparation des fonctions. Mmh. On en a encore des traces avec l'urbanisme sur dalle qu'on va retrouver à Beaugrenelle, à Cergy-Pontoise. Mmh. Et la séparation des fonctions fait que, puisqu'il n'y a plus, il y a un espace dévolu à la circulation des voitures qui n'est pas le même que celui dévolu à la circulation des piétons, finalement le trottoir va disparaître. Et le Corbusier va même écrire « La rue corridor à deux trottoirs ». étouffée entre de hautes maisons doit disparaître. J'ai l'impression, à lire son livre Urbanisme de 1925, qu'en fait il en voulait plus à la rue, notamment à la rue courbe qu'au trottoir, mais toujours est-il que effectivement, ça aurait pu dicter la disparition du trottoir. Ce qui me paraît intéressant, c'est que précisément, la charte d'Athènes, c'est la séparation des fonctions. Et le trottoir, c'est tout l'inverse. Le trottoir, c'est rassemble. En fait la capacité à réunir en un même lieu des fonctions c'est qui vrai. Sont parfois hétérogènes. Et moi, c'est pour ça, c'est en ça que le trottoir me fascine comme objet. C'est que d'abord, du point de vue, il est hybride public-privé. Et puis justement, il est capable, c'est un entre-deux qui est capable d'accueillir tout type de fonctions, quelque chose et son contraire. Et c'est ça qui fait son, je trouve, incroyable richesse.
Alors, vous dites justement à plusieurs reprises que le trottoir est une métonymie de la ville. Il faut d'abord nous rappeler ce que c'est qu'une métonymie. Et en quoi le trottoir, justement, est-il cette métonymie? C'est à la page 113 de votre livre.
Oui, alors, effectivement, l'expression métonymie, on l'utilise quand on dit « je vois une voile à l'horizon ». Ouais. « Je vois une voile à l'horizon », ça veut dire « je vois un bateau ». C'est le fait de désigner la partie pour le tout ou le tout pour la partie. Et en fait, ce qui me frappe, c'est que, au fond, le trottoir, c'est fondamentalement un signe de l'urbain. D'ailleurs, c'est ce que dit Henri Lefebvre. Et alors, pour preuve, il y avait eu une très belle exposition qui avait été organisée par le Musée de la Chasse et de la Nature il y a quelques années. Pour montrer qu'un sanglier est sur la ville sauvage, pour montrer qu'un sanglier est en ville, eh bien, on l'avait mis sur un trottoir, en fait. Pareil, vous avez une illustration qui illustrait ce dossier de la revue Billboard consacré à cette exposition sur la ville sauvage. Pareil, on voyait trois sangliers et juste pour montrer qu'ils étaient en ville, ils étaient sur un trottoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trottoir à la campagne. Il peut y en avoir, mais fondamentalement, c'est un signe de l'urbain. Globalement, s'il n'y a pas de trottoir, c'est qu'on est à la campagne. S'il y en a, c'est qu'on est en ville.
Alors, on a vu pendant le Covid également des renards ou des animaux sauvages sur les trottoirs, mais singulièrement dans les villes, et en plus à Paris.
Alors ça, c'est le vaste sujet du fameux retour du vivant, ou de l'importance du vivant. Mais effectivement, le trottoir, il est aussi justement l'incarnation de ce retour, en fait, du vivant en ville.
Alors, au-delà de l'étude de l'objet trottoir, il y a un autre angle de votre livre qui consiste à étudier finalement ce qu'on trouve sur le trottoir. Et vous consacrez un chapitre entier. Vous analysez plusieurs aspects, la place du piéton, dont les enfants, très important, les riverains, les commerçants, les opérateurs de mobilier urbain, les occupants de la transition numérique, les opérateurs de nouvelles formes de mobilité, les logisticiens et leurs livreurs, les occupants de la transition écologique. Bref, en parcourant un peu cette liste à la Prévert, on a l'impression que le trottoir dans nos villes, c'est maintenant le Far West. Est-ce que c'est le Far West ?
Alors, déjà, je pense que le point important, vous en avez fait un peu la liste, c'est déjà de prendre conscience de la diversité de ses occupants. Le trottoir, en fait, il est assez peu considéré par les professionnels de l'urbanisme, qui vont plutôt parler d'espace public. Moi, je pense que le trottoir, il convoque d'autres choses. D'abord, il convoque quelque chose de plus intime, de plus de l'expérience sensible. Vous avez cité les enfants. C'est vrai qu'on parle souvent, de plus en plus aujourd'hui, de refaire de la place aux enfants dans l'espace public, mais les enfants, ce dont ils parlent, c'est de trottoir, en fait, ce qu'ils connaissent. C'est le trottoir, c'est pas l'espace public. Et puis la ville à hauteur d'enfant, elle va se jouer précisément sur cet espace. Donc déjà, il me semble que le point important, c'est avant de se dire est-ce que c'est le Far West ou pas, ça sera peut-être le sujet d'après, mais de prendre conscience que le trottoir, ce n'est pas que l'espace dévolu aux piétons. Évidemment, c'est l'espace privilégié du piéton et il s'agit sans doute de défendre aussi sa place, mais il s'agit aussi d'accueillir, et parce que l'animation des rues d'une ville, elle va se jouer aussi là-dessus, il s'agit de pouvoir accueillir par exemple les commerces qui existent déjà, les cafés, mais aussi, je pense effectivement que la transition écologique qui aujourd'hui arrive de manière très forte, elle va se jouer beaucoup sur le trottoir, autour notamment des enjeux de végétalisation du trottoir et de désimperméabilisation.
On va en parler.
Et par exemple, un objet qui me paraît vraiment intéressant, c'est tout ce qui concerne par exemple les bornes d'apport volontaire de déchets. On vient de voir apparaître un nouvel occupant de trottoir qui sont les bornes de compostage des biodéchets. Et ça illustre finalement aussi à la fois des évolutions et aussi le basculement de quelque chose qui se jouait à l'intérieur du domicile versus à l'extérieur. Donc là, la frontière publique-privée, mais au sens sphère privée, sphère publique. Et typiquement, on voit que des objets qui arrivent n'ont plus forcément la place d'être à l'intérieur du domicile et doivent aller aussi sur le trottoir. L'espace public devient de plus en plus le prolongement du chez-soi. C'est un chiffre, c'est un peu donc des chouettes des carottes, mais en une quinzaine d'années, les logements d'Île-de-France ont diminué de 10 mètres carrés en moyenne. 10 mètres carrés, c'est la place d'une la taille d'une place de stationnement en bas de chez soi qu'on va éventuellement réoffrir aux habitants des villes.
Donc le trottoir illustre nos façons de vivre, d'habiter, de travailler.
Ah, tout à fait. Alors j'ai repris l'expression d'un journaliste américain qui dit pour lire l'avenir des villes, regardez le trottoir. Mmh. Et vraiment, peut-être si je peux inviter nos auditeurs à ça, c'est effectivement d'abord de 1, et là c'est Pérec, Georges Pérec avec l'infraordinaire, c'est de dire prêtez attention à ce qui vous paraît ordinaire, mais qui est tellement ordinaire que vous ne le regardez pas.
Le trottoir.
Et d'autre part, regardez-le en vous disant que justement ce qui arrive sur le trottoir, c'est précisément l'évolution des modes de vie. Il y a un exemple, on parlait des enfants, moi j'aime beaucoup l'histoire des poussettes. Vous aviez en 1862 un architecte belge qui dénonçait l'arrivée justement sur les trottoirs de voitures poussées par la bonne ou la mère qui renfermaient des enfants, et c'était les poussettes qui venaient de faire leur apparition. C'était un nouvel occupant du trottoir qui suscitait déjà des batailles.
Nouveau moyen de locomotion. On va marquer une courte pause musicale avec le titre Cela ne vous surprendra pas, les trottoirs du boulevard de Saint-Laurent, de la plus française des chanteuses canadiennes, Diane Tell. On écoute.
Pour déjeuner, on mange debout, au coin doré, les prix toujours bas et la qualité n'ont pas changé.
Pourquoi?
Quand c'est bon, c'est bon, jour et nuit, mais qui n'a pas encore goûté au très fameux délicieux steamé du boulevard Saint-Laurent? Personne t'a dit des gens riches qui passent pour avoir de la classe. Les jeans sont
Saint-Laurent.
C'est un peu moins beau, mais beaucoup, beaucoup plus vrai. Moi, quand je vois la folle de Carole qui me tend la main, je t'emmène chez nous pour bien. Si tu veux bien attendre, il faut s'attendre à tout ici. Mais à jamais, non merci.
Si Prince Arthur est bien plus hip et Saint-Denis a son unique.
Complètement à l'ouest sur Radio Imo et Radio Territoria.
Allez. De retour avec Isabelle Barreau-Servati qui publie Trottoir, une approche économique historique et flâneuse, paru aux éditions Apogée. Alors juste avant la pause musicale, en plus ce morceau très optimiste qui met de bonne humeur, nous avons parlé de l'encombrement de nos trottoirs, du fait qu'ils sont de plus en plus convoités par les opérateurs de trottinettes électriques, notamment les livreurs de colis, les fontaines rafraîchissantes, les points de collecte de déchets, sans oublier les piétons et les riverains. Alors d'où cette question, quelle est la valeur du trottoir, cet espace public qui est donc de plus en plus rare et de plus en plus convoité. Comment est-ce qu'on valorise finalement l'espace public du trottoir?
Peut-être d'abord un mot sur la chanson que j'aime
allez-y,
beaucoup.
Voilà,
parce
sûr.
Que je reviens de Montréal où je donnais une conférence sur Sous la neige, le trottoir. Et je pense que le trottoir, c'est aussi un marqueur de l'identité des villes. Et finalement, en regardant les trottoirs l'hiver à Montréal, sans donner le nom de la ville, ça dit
bien
quelque
sûr,
chose de la ville.
Sûr.
Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire de...
Et d'ailleurs, on imagine
des...
vraiment Montréal quand on écoute Diane Tell.
Alors sur,
quelle est la valeur des trottoirs?
Sur la question de la valeur du trottoir, alors ce qui me paraît important, c'est de considérer que pour tout un tas d'occupants qu'on a évoqués, le trottoir constitue une ressource clé. Ça veut dire qu'il est nécessaire pour les opérateurs de trottinettes, pour les opérateurs de l'économie circulaire, pour les opérateurs immobiliers, il leur est nécessaire pour fonctionner. Et donc, il faut prendre conscience que pour ces opérateurs, ils représentent une valeur. Par ailleurs, la multiplication des occupations du trottoir font que pour un même trottoir, on va dire dans une partie dense de la ville, le trottoir, il est rare. Et donc, cette multiplication des occupations du trottoir sur un espace qui est limité et rare eh bien, amène tout de suite, me semble-t-il, à la question de la valeur du trottoir. Et moi, finalement, c'est un des messages clés du livre. Alors, il y a pour lire l'avenir des villes, regarder le trottoir. Peut-être un autre message clé, c'est de dire le trottoir, c'est l'espace le plus précieux des villes. À la fois dans le sens l'espace précieux, parce que c'est celui qui va permettre aux piétons de marcher, mais aussi l'espace précieux au sens où c'est une ressource clé. C'est un lieu qui représente de la valeur. Et la question, c'est finalement qui va capter cette valeur du trottoir.
Bien sûr. Et comment les villes, justement, valorisent ou captent cette valeur ?
Alors, je pense que déjà, le premier point, c'est un sujet qui est assez étonnant, parce qu'il est rarement interrogé, en fait. Et donc, c'est déjà une prise de conscience. Moi, peut-être c'est ça aussi le but de ce livre, c'est de dire, les premières conférences que j'ai faites sur le trottoir auprès des collectivités locales, c'était précisément sur prenez conscience de la valeur du trottoir. Cet espace que vous ne regardez pas, considérer à quel point il est nécessaire à la ville pour fonctionner, aux opérateurs que vous souhaitez réguler. On parle par exemple beaucoup des plateformes de livraison. On dit pour réguler les plateformes numériques, il faut utiliser la donnée. Mais vous avez des plateformes, par exemple Amazon ou Deliveroo, qui en fait précisément utilisent le trottoir comme ressource clé. Or, le trottoir, en principe, pas toujours, il appartient à la collectivité. Et donc, on voit bien que le trottoir devient en fait un levier de régulation de ces plateformes. Donc, c'est à la fois un potentiel gisement de valeur, ce qui pose la question du prix du trottoir, ce qui amène sur des sujets un peu, dont on peut débattre, mais c'est aussi un levier de régulation.
Nos climats, justement, vous en disiez un mot tout à l'heure, se réchauffent, nous le vivons plus intensément d'année en année, et l'on suffoque parfois dans nos villes. Question toute simple, est-ce qu'on n'avait pas intérêt justement à réorienter l'usage, j'allais presque dire la valeur du trottoir, pour qu'il se transforme en de nouveaux espaces publics de fraîcheur? Ce serait y mettre, vous l'évoquiez tout à l'heure, plus de fontaines, plus d'arbres, davantage de bancs, davantage d'ombrières, de brumisateurs. Est-ce que c'est ça l'avenir des trottoirs?
Alors en tout cas, ce que je constate, c'est qu'effectivement, ne serait-ce qu'autour de nous, là à Paris, on assiste à un mouvement de désimperméabilisation massive des trottoirs. Moi, je suis assez surprise de voir la rapidité avec laquelle ça va. Et je pense qu'effectivement, les trottoirs, alors Sylvain Grisot dit que 80% de la ville de 2050 existe déjà. On peut dire que peut-être 90% de l'espace public de 2050 existe. Et donc, c'est effectivement les trottoirs, finalement la partie non circulée de la rue, qui deviennent sans doute le lieu de transformation de l'espace public pour éviter d'abord les îlots de chaleur, éviter le fait que parce que c'est imperméabilisé, ça se réchauffe. Alors après, donc le trottoir est sans doute le lieu où va se jouer une grande partie de la transformation de la ville pour favoriser l'adaptation des villes au réchauffement climatique. Après, je pense que on va rentrer dans un certain nombre de questions qui sont par exemple justement qui sont des questions politiques au sens de choix qu'il va falloir opérer. Mettre des arbres, c'est peut-être à un moment donné poser la question des réseaux. Il y a des endroits où il y a des réseaux. L'ennemi de la racine, souvent, c'est, j'aime bien le terme qu'utilisent les Belges, c'est l'impétrant. Donc voilà, il y a une concurrence en fait entre la racine et le réseau. Comment est-ce qu'elle va se résoudre? Il peut y avoir éventuellement une concurrence entre un choix à faire entre l'arbre et le banc ou la fontaine rafraîchissante. La question aussi du revêtement des trottoirs pose la question de ses qualités. Est-ce que effectivement,
ou de la couleur?
Alors de la couleur aussi. Est-ce qu'il va falloir choisir entre des trottoirs sur lesquels on pourra faire rouler par exemple des poussettes plus facilement ou des trottoirs qui sont plus meubles? Ce qu'on voit aussi, c'est que le dimensionnement des espaces publics et notamment du trottoir est en train en fait d'évoluer, devient de plus en plus fonction du grand cycle de l'eau. Donc cette fonction hydraulique que j'évoquais à propos de Pompéi, elle redevient sans doute absolument majeure. Donc je pense que oui, le trottoir, ça va devenir en fait le lieu où va se jouer pour une large part l'adaptation des villes au réchauffement climatique. Mais il y a encore beaucoup de questions qui sont ouvertes. Et c'est pour ça que je pense, pour toutes ces raisons et celles que j'évoquais avant, le trottoir, c'est un lieu à gouverner. C'est vraiment le lieu à considérer, mais aussi sur lesquels il y a des décisions à prendre.
Il faut une révolution du trottoir.
Il faut une gouvernance.
Il faut une gouvernance et des révolutionnaires du trottoir. Alors, il y a quelques mois est paru l'ouvrage de Julien Damon, que vous connaissez, qui est un spécialiste des questions urbaines, tout comme vous. Ouvrage intitulé « Toilettes publiques, deux points, essai sur les commodités urbaines ». Alors, la thèse de l'auteur, c'est que ce sujet des petits coins condense une partie des problèmes du monde. Pas de toilettes renvoie à la question de la non-égalité, de la non-dignité des personnes, des femmes, des sans-abri, des habitants des bidonvilles. D'ailleurs, la fondation Bill Gates consacre chaque année des millions de dollars à cette cause des toilettes, notamment dans les villes. Question que je me pose, par le passé, il y avait les pissotières, puis les sanisettes de coups. Où en sommes-nous sur ce sujet des toilettes et la ville, donc du trottoir?
Oui. Alors, sur ce sujet, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de lire le livre de Julien Damon, qui est un livre absolument stimulant, plein d'humour. Mais peut-être ce que je voudrais dire, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est au fond cette idée d'essayer de se saisir d'objets qui paraissent un peu ordinaires, un peu triviaux et éventuellement un peu décotés parce que je pense que si on veut lire les transformations de la ville, c'est peut-être plus autour de ces objets qu'on peut le faire. Parce que aussi ces objets, ils sont, je dirais, ils évitent de rentrer dans des postures parfois idéologiques où on va entendre des positions entendues. Autour de ces sujets très concrets, s'expriment, je pense, des vrais débats, des vraies visions sur ce qu'est la ville. Vous avez des chercheurs en urbanisme qui parlent du tournant matériel, en fait, de pouvoir lire la ville, l'évolution de la ville à partir des objets. Et moi, finalement, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être de se dire, c'est quoi aujourd'hui les objets clés pour penser la ville. Quelqu'un, j'étais passée à géographier la carte sur France Culture et un auditeur m'avait dit, moi je pense qu'il faudrait étudier les gouttières. J'avais bien aimé cette idée en disant, voilà, c'est un élément extrêmement important. Donc, je pense que raconter la ville, vous aviez les civils, une agence d'architecture qui avait écrit un article pour le pavillon de l'Arsenal sur le placard comme révélateur des modes de vie. Voilà, je pense que essayer de raconter la ville et ses évolutions et ses débats à partir d'objets très concrets, c'est peut-être une manière aujourd'hui de dépasser des antagonismes un peu récurrents.
Alors jusqu'à assez récemment, il y avait une filiale de Google consacrée à la ville, plus exactement à la collecte de données urbaines, et cette filiale s'appelait Google Sidewalks, et en anglais Sidewalks ça veut dire trottoir, qu'on peut traduire donc par Google trottoir, et Google Sidewalks, Google trottoir, avait développé notamment un projet de quartier hyper connecté à Toronto. C'est un projet qui, à ma connaissance, a capoté et c'est l'un des grands échecs des projets, notamment des villes dites intelligentes. Question toute simple et très directe, qu'est-ce qui est arrivé à Google Sidewalk? Où en sommes-nous des villes dites intelligentes qui étaient finalement très à la mode il y a quelques années?
Alors, d'abord, effectivement, le Sidewalk Labs, donc la filiale avait été créée de mémoire en 2015 ou 2016. Le projet de Toronto date de 2017. En fait, il est un peu à l'origine de ce livre, puisque à la même époque, il y avait ce projet. Moi, j'avais découvert le livre d'Antoine Compagnon, pareil, que je recommande à tous les auditeurs, qui s'appelle Les Chiffonniers de Paris. Et c'était précisément en faisant le constat que le trottoir s'était généralisé au milieu du 19e siècle, en même temps que les grands réseaux urbains, ce que j'évoquais tout à l'heure, et que finalement, il devenait le nom choisi par les plateformes, qui l'incarnait peut-être l'évolution de la ville des infrastructures, la ville des plateformes. Voilà. Alors, par rapport à votre question sur les smart cities, c'est vrai que 2010, IBM lance son concept de smart city, mais je pense que le terme smart city, c'était un terme qui était très, très orienté, technologique, très tenté vers un techno-optimisme,
ouais,
en fait.
Voilà.
Techno-solutionnisme. Voilà. Je crois pareil. Que ce techno-solutionnisme, le constat a été fait que ce n'était sans doute pas la solution. En revanche, je pense qu'il faut faire attention à ne pas jeter le numérique avec l'eau du bain de la smart city. C'est-à-dire que, autant je pense que c'est très bien qu'on ne parle plus de smart city, en France, ce n'est pas forcément le cas ailleurs, autant je pense que la question du numérique qui saisit la ville, elle est absolument majeure, mais il me semble que l'objet justement qu'il incarne davantage, c'est le fait que la plupart des citadins ont un super ordinateur dans leur poche, qui est le smartphone, en fait. Bien donc sûr. Pour moi, le défi, il est plutôt là, il est plutôt de comment on pense le numérique dans la ville, pas dans une logique techno-solutionniste, mais en termes d'évolution des modes de vie et services. Et le projet de Toronto, alors officiellement il a été abandonné en mai 2020 à cause du Covid. Il y avait eu une très grande levée de boucliers par rapport à la question des data. Je dirais que c'est, je pense, un épiphénomène dans l'histoire, en fait, des villes. Ce que ça montre aussi, c'est que, et c'est peut-être ça c'est un point, c'est que à l'époque on imaginait encore que Google allait construire des villes. On voit bien aujourd'hui que c'est pas le cas, mais je pense que par contre il y a un sujet qui me paraît absolument majeur, c'est celui de la cartographie. Et si Google ne construit plus de villes, en revanche c'est lui qui de plus en plus informe les habitants des villes, et de plus en plus l'accès à l'espace public passe à l'accès à l'information sur l'espace public, et ça passe par ces opérateurs-là. Et donc je pense que là il y a un enjeu de la couche informationnelle des espaces publics qui finalement passe un peu sous les radars. C'est pas un sujet qui est mis dans le débat public. Il se trouve que j'ai publié là une chronique pour Futurible, une association de prospective sur ce sujet, mais je pense que c'est un sujet majeur. Qui tient la carte? Parce que la carte a toujours été un instrument de pouvoir.
Absolument. Donc vous pensez bien sûr à Google Maps.
Je pense notamment
sans le citer, évidemment. justement, en parlant de citation, vous citez dans votre livre le phénomène du phobing. On l'a tous constaté. Phobing, c'est un mot valise composé notamment de phone portable en anglais et de snobbing. Alors, pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est de snobber. Bref, la traduction, c'est d'ignorer son interlocuteur avec son portable. Chose que l'on voit, que l'on vit de plus en plus sur les trottoirs. J'ai même vu, je crois que c'est au Japon, il y a des trottoirs où la signalétique est au sol et non à la verticale, car on baisse en permanence la tête en regardant son portable. Et donc, si la signalétique est au sol, à ce moment-là, on verra qu'on est sur le point de traverser une rue. Question toute bête, toute très généraliste, que nous dit ce snobbing de nos villes et donc de nos trottoirs? Que nous dit ces phénomènes-là finalement de nos sociétés?
Oui, alors, monsieur, j'aime bien dans ce terme, alors il est un peu anecdotique, hein, mais d'abord, je vous invite à, enfin, j'invite les auditeurs à regarder sur le site de l'INA un documentaire de René Barjavel de 1947 qui s'appelle « La télévision œil de demain ». Et il dit, et la rue présentera un singulier spectacle. Ça dure quelques minutes et vraiment, en fait, ce qu'on voit, c'est ça. C'est des piétons sur leur téléphone.
Et ça, c'était en 47.
Et c'était en 47. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est le fait de dire, les piétons, ils sont pas toujours gentils. Alors, je suis désolée. Voilà, mais c'est que, voilà, y compris au sein des piétons, voilà, il peut y avoir des collisions de piétons.
Et il y en a,
Et je trouve ça amusant. C'est toujours cette forme de hiérarchie entre le piéton, le cycliste, l'automobiliste, et chacun se renvoie la balle.
Ouais. Alors, toute dernière question, parce que le temps passe malheureusement, en lien avec la conclusion de votre livre. Vous écrivez que ce livre, votre livre, Trottoir, c'est le premier ouvrage en France depuis les écrits d'un ecclésiastique en 1805. Alors, outre que je suis très fier de recevoir à ce micro l'auteur d'un ouvrage rare, du moins sur son thème, comment expliquer que le trottoir a été si peu étudié?
Oui. Bon, alors je me suis peut-être un petit peu vantée, mais je crois pas tant que ça. Il y a eu notamment.
C'était vrai, j'espère.
Écoutez, de mon repérage, il y a eu quelques livres sur le trottoir que je cite dans la bibliographie, mais qui ont jamais été, on va dire, de manière englobante, en fait, sur l'ensemble des dimensions du trottoir. Vous avez eu un livre sur les trottoirs de villes américaines qui a été publié, qui s'appelle Sidewalks, mais encore une fois, que sur les trottoirs américains. Mm-hmm. Alors, je pense qu'en fait, une des raisons, donc effectivement, vous avez Arthur Dillon qui avait créé ce livre en 1805 pour militer pour avoir des trottoirs, parce qu'il les avait connus à Londres, justement, auparavant. Je pense qu'une explication, c'est que dans l'urbanisme en France, le terme en fait qui permet de penser ces sujets-là, c'est l'espace public. Alors l'espace public, ça n'est pas la même chose que le trottoir. Le trottoir n'est qu'une partie de l'espace public. Il est plus ambigu, hein, je l'ai dit, il est plus hybride. Mais je pense que c'est une des explications. L'autre explication étant que le trottoir, vous l'avez dit en introduction, il est souvent associé à la prostitution, la vie dans la rue, le caniveau. Et donc, il renvoie sans doute à un imaginaire que justement les Québécois n'ont peut-être pas. Dans les chansons, au Québec, vous avez une chanson de René Lévesque sur les petits enfants qui jouent sur le trottoir. Donc, une explication peut-être, c'est tout simplement que le trottoir était mal connoté. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, alors peut-être parce que je suis une femme, que je me suis intéressée à ce sujet-là, je dis ça parce que Jeanne Jacobs, que nos éditeurs connaissent pour son livre Survie et déclin des grandes villes américaines, a publié ce livre, et dans ce livre, il y a trois chapitres sur le trottoir et les enfants, le trottoir et la sécurité. Et dans l'édition française, eh bien, le mot trottoir est traduit par le mot rue.
Ah oui.
Et je me souviens d'avoir lu une analyse qui disait finalement peut-être voilà les femmes ont plus que les hommes l'idée de s'intéresser aux choses justement du quotidien un peu matériel qui pourtant font aussi l'essentiel de
bien
la vie.
Sûr. Eh bien, nous voilà au terme de notre émission. Un grand merci, Isabelle Barrault-Serfati, d'avoir mis les petits plats dans les grands, en tout cas d'avoir accepté mon invitation pour cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Je rappelle que vous avez publié Trottoir, une approche économique, historique et flâneuse aux éditions Apogée. C'est franchement drôle, c'est très instructif et c'est aussi poétique. Et donc, pour qui s'intéresse à la ville, à l'architecture, il faut vraiment le lire. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest, au cours de laquelle on parlera non pas de ville, non pas de trottoir, mais de crypto-actifs, notamment le Bitcoin, mais pas que. Et ce, en compagnie de Claudine Urmand, qui, à la Banque de France, est directrice de l'innovation et des infrastructures, des marchés financiers. Et puis, comme toujours, un mot particulier, je le regarde en régie pour remercier nos amis techniciens sans qui, eh bien, cette émission ne pourrait pas avoir lieu. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a aidé à mettre en œuvre cette émission. Donc, on se retrouve le mois prochain, mais d'ici là, vous connaissez la formule, on garde le cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Merci, à bientôt.
Complètement à l'Ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.